Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
La croissance démographique de certaines espèces animales et l'émergence de maladies contagieuses ont fait qu'en quelques années, la faune sauvage est devenue un véritable enjeu de santé publique. En France, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public qui célèbre cette année ses 40 ans, a mis au point une épidémiosurveillance des maladies de la faune sauvage au travers d'un réseau baptisé SAGIR. Avec nous, pour en parler aujourd'hui, le docteur vétérinaire Jean Ars, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, membre de l'USF, l'unité sanitaire de la faune, à l'ONCFS. Jean Ars, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, nous présenter l'unité sanitaire de la faune et nous préciser aussi ses missions ?
Voilà, alors l'unité sanitaire de la faune est une unité qui fait partie de la direction études et recherches de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est donc la direction qui a en charge une des grandes missions de l'établissement, qui est donc de faire des études et de la recherche appliquée sur la biologie et, entre autres, les maladies de la faune sauvage, pour ce qui me concerne. Et au sein de cette direction études et recherches, il y a un certain nombre d'équipes de spécialistes, de familles animales, donc des spécialistes des cerfs et sangliers, des spécialistes des oiseaux migrateurs, des spécialistes des animaux prédateurs, grands prédateurs, ours, loups, lynx et autres. Et à côté de ces équipes de spécialistes dans les différents domaines de familles animales, il existe une unité qui s'appelle l'unité sanitaire de la faune, qui elle est transversale, donc qui s'occupe de toutes les espèces d'une manière générale, les espèces sauvages, et qui s'occupe de surveiller et de mieux connaître l'épidémiologie des maladies de la faune sauvage en France. Alors, cette unité, en fait, a plusieurs objectifs. Le premier est de connaître les différentes maladies qui sont présentes dans la faune sauvage en France, donc d'en faire un inventaire. Et c'est bien le but du réseau SAGIR, qui, lui, a été créé en 1986 à l'initiative du monde de la chasse, principalement, qui se posait des questions sur la santé du gibier. Le gibier est-il en bonne santé ? Le gibier est-il appelé à avoir des problèmes de maladies qui vont avoir un effet négatif sur les effectifs, sur la démographie, dans la mesure où le chasseur a pour principal objectif d'avoir un gibier le plus nombreux possible et en meilleure santé possible ? Le chasseur prend-il des risques à consommer de la viande d'animaux sauvages qui pourraient être porteurs de certaines maladies ? Le chien de chasse prend-il des risques à avoir des contacts ou à consommer aussi de la viande de gibier ? Donc toutes ces questions étaient posées à l'époque et ont été à l'origine de la création du réseau SAGIR. Ça date, je vais dire, des années 80-90. Et au fil du temps, il y a eu une prise de conscience par le ministère de l'Agriculture français que la faune sauvage, comme vous l'avez déjà dit, était un acteur de la santé publique, mais aussi un acteur de la santé animale en France. Et donc que cette faune sauvage pouvait être porteuse d'un certain nombre de maladies contagieuses qui pourraient être transmises aux animaux d'élevage et, pour certaines d'entre elles, à l'homme. Donc on appelle à ce moment-là cela des zoonoses.
Alors abordons la question différemment, peut-être par un point plus précis. Vous avez évoqué tout à l'heure l'accroissement démographique des populations. Est-ce que cet accroissement démographique, qu'on connaît maintenant pour certaines espèces, a des conséquences, justement, sans parler de prolifération du grand gibier, est-ce qu'un accroissement démographique a des conséquences en termes sanitaires ?
Tout à fait. Et c'est un facteur dont on tient compte énormément dans l'évaluation des risques actuels d'émergence et de persistance de maladies dans la faune sauvage qui, elles, peuvent justement être transmissibles aux animaux d'élevage ou à l'homme. Il est bien évident que le développement d'une maladie dans une population animale, qu'elle soit humaine ou animale, dépend de nombreux facteurs. Elle dépend de facteurs qui sont internes à la population animale, qui peut être plus ou moins sensible à tel ou tel agent pathogène. Quand vous avez un virus de la grippe qui débarque dans une population humaine en France, vous avez certaines tranches de population qui sont plus sensibles à ce virus, comme les personnes âgées ou les jeunes enfants. Les adultes sont moins sensibles. Dans la faune sauvage, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir soit des espèces, soit des individus au sein d'une même espèce qui vont être plus ou moins sensibles. Ça, déjà, c'est un facteur qui va influer sur le développement ou non d'une maladie dans une population. Ensuite, vous avez tout un tas de facteurs environnementaux, climatiques, qui font que les agents pathogènes facteurs de cette maladie vont pouvoir mieux se développer, mieux persister dans le milieu extérieur et donc être transmis d'animal à animal. Mais il y a bien entendu un facteur qui est majeur et sur lequel on peut intervenir et on peut agir, alors que sur les facteurs environnementaux, climatiques et sensibilité individuelle, on ne peut pas agir. Ce sont des états de fait. Alors que la densité des animaux sauvages, c'est quelque chose sur lequel on peut plus ou moins agir en fonction des objectifs que l'on se donne. Il est bien évident que dans une population animale, plus les animaux sont nombreux, plus ils vont avoir des chances d'être en contact les uns avec les autres, donc de se transmettre des bactéries, des virus, des parasites, donc des maladies contagieuses. Donc vous avez des chances dans une population dense de voir une maladie apparaître, ensuite se développer, ensuite persister à long terme et ensuite se transmettre à d'autres espèces sauvages ou à d'autres espèces domestiques, puisque la densité, donc le nombre d'animaux présents sur un territoire, va influer de manière très nette sur les risques de contact que ces animaux vont avoir entre eux et contact avec d'autres espèces. On est actuellement dans une problématique qui concerne la tuberculose bovine, et où on étudie justement le niveau de contact que les animaux sauvages peuvent avoir avec des vaches pour éventuellement transmettre l'agent de la tuberculose.
Alors, c'est ce que vous semblez sous-entendre. Les politiques agricoles ont changé, en matière d'élevage notamment. Comment aujourd'hui se font ces points de contact entre la faune sauvage et les bovins, par exemple, pour ce qui était de la tuberculose bovine que vous évoquiez à l'instant ?
Bon, la tuberculose bovine est un bon exemple. On a en effet vu apparaître cette maladie assez récemment en France chez les animaux sauvages. Ça a une dizaine d'années, puisque la première fois qu'on a détecté de la tuberculose sur des animaux sauvages, c'était en 2001 en Normandie, dans une forêt qui s'appelle la forêt de Bretonne, sur des cerfs au départ, puis après sur des sangliers. Ensuite, on a trouvé d'autres animaux sauvages qui se sont trouvés infectés en France, en particulier dans des zones, dans des départements où la faune sauvage est assez dense, justement. Et on a bien vu une relation entre la densité, donc le nombre d'animaux au kilomètre carré, hein, c'est comme ça que l'on qualifie et que l'on évalue la densité d'une population, donc dans des populations denses. Aujourd'hui, nous effectuons justement un certain nombre d'études dans ce domaine pour essayer de qualifier, d'identifier, d'évaluer les contacts qui peuvent se faire entre des animaux sauvages et des animaux domestiques, ces contacts pouvant permettre à des agents pathogènes d'être transmis d'un animal sauvage à un animal domestique ou inversement, d'un animal domestique à un animal sauvage. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement complexe parce que certains germes pathogènes peuvent être transmis directement d'un animal à un autre. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un contact très rapproché entre les animaux. C'est le cas entre des vaches d'un même élevage, c'est le cas entre des sangliers d'une même compagnie, c'est le cas entre des blaireaux d'un même terrier, ils se passent très facilement à la maladie les uns les autres, comme dans une famille chez l'homme. Mais c'est plus compliqué quand il s'agit de se transmettre la maladie, par exemple entre un blaireau et une vache, ou entre un sanglier et une vache. Ça, c'est évident. Néanmoins, on sait que ces contacts ont lieu, et que l'on peut avoir, en effet, des contacts directs, en particulier sur des lieux où les animaux sauvages et domestiques s'alimentent ou s'abreuvent au même endroit, en général la nuit, puisque les animaux sauvages sont beaucoup plus actifs la nuit que la journée pour se nourrir.
Alors, des échanges, des contacts qui induisent une contamination, on entend parler parfois aussi de recontamination.
Oui, alors, de recontamination d'animaux sauvages ou de bovins ou
alors,
de vaches ?
De bovins.
Oui, d'accord.
Recontaminés,
de bovins,
entre
voilà.
guillemets, par la faune sauvage.
Alors, je vous ai pas tout dit sur les voies de transmission. On a parlé des contacts directs qui imposent que des animaux soient vraiment très proches les uns des autres. Mais on a bien entendu des transmissions qui peuvent se faire indirectement par l'environnement, par le milieu extérieur, contaminé ou pollué par l'agent pathogène en cause, par l'agent de la maladie. Et quand on a des agents de la maladie qui sont assez résistants dans le milieu extérieur, qui peuvent persister dans le milieu extérieur pendant une semaine, un mois, deux mois, trois mois, mais à ce moment-là, vous pouvez très bien avoir un animal domestique qui va contaminer un lieu où les animaux se nourrissent, une pâture ou une mangeoire, et plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, un animal sauvage venir s'alimenter au même endroit et attraper la maladie, se contaminer. Donc là, on est dans un contact beaucoup moins direct, mais néanmoins, c'est très probablement la manière dont les animaux sauvages et domestiques s'intercontaminent le plus, en tout cas pour certaines maladies comme la tuberculose. Alors, le phénomène que l'on a vu, mais que l'on a observé, mais on est déjà tout de suite dans le cœur du sujet de la tuberculose, là, hein, qui n'est pas le seul sujet sanitaire important, mais qui en est un aujourd'hui. Il se trouve que dans certains départements français, on a observé depuis maintenant 7 à 8 ans une recrudescence de la tuberculose chez les vaches, chez les bovins, alors qu'on pensait il y a 7-8 ans que cette maladie était presque éradiquée en France. Après presque 50 ans de lutte menée par les services vétérinaires et tous les vétérinaires de France et de Navarre pour dépister la maladie chez les bovins et éradiquer cette maladie chez les bovins, eh bien, cette maladie a redémarré dans quelques départements français chez les bovins. Et à cette occasion-là, malheureusement, on a constaté que les bovins avaient très probablement contaminé des animaux sauvages, en plus dans un contexte de densité importante d'animaux sauvages, ce qui a permis à la maladie maintenant de commencer à se développer chez ces animaux sauvages. Et il faut savoir que quand un cheptel bovin est déclaré infecté de tuberculose, il subit une mesure absolument drastique qui est l'abattage total. Donc, on est obligé d'abattre tous les bovins de l'exploitation, même s'il n'y a qu'une ou deux vaches qui sont infectées dans l'élevage. Donc, l'éleveur subit un abattage total. Ensuite, il y a une période de désinfection de ses locaux, de désinfection d'un certain nombre d'endroits de pâture, hein, où vont ces bovins, de vide sanitaire pendant plusieurs mois, avant que cet éleveur puisse racheter des bovins indemnes ailleurs en France, enfin, des bovins indemnes, et reconstituer son troupeau. Et il s'avère qu'on a plusieurs éleveurs qui ont été très rapidement recontaminés, c'est-à-dire que le nouveau troupeau s'est retrouvé tuberculeux très rapidement. Certains ont abattu deux fois leur troupeau, certains ont abattu trois fois leur troupeau d'affilée, ce qui est extrêmement traumatisant à la fois psychologiquement et économiquement, bien entendu. Et dans ce cas-là, si l'on trouve des animaux sauvages infectés à proximité de ces élevages, il est bien entendu que l'on a un soupçon que cette maladie persiste localement dans la faune sauvage et que ce soit ces animaux sauvages qui recontaminent les bovins. On n'a encore pas pu le démontrer totalement, ce ne sont que des soupçons, mais on ne peut pas, bien entendu, pas s'empêcher que de soupçonner ce phénomène qui est regrettable. Et c'est pour cela que l'on prend très au sérieux actuellement le développement de cette tuberculose chez un certain nombre d'animaux sauvages dans des régions bien précises de France. Ça n'est pas du tout généralisé en France, hein, mais on prend ça très au sérieux. Et l'on peut justement essayer d'éviter le développement de ces maladies en jouant sur un facteur qui est le facteur densité, c'est-à-dire essayer d'avoir une fosse sauvage qui est présente, mais en bonne santé et sans être en surnombre.
Alors, vous venez de nous parler longuement de la tuberculose bovine. On a bien compris que l'unité sanitaire de la faune portait ses études sur d'autres pathologies. Est-ce qu'on peut évoquer quelques autres exemples ? On parle parfois de la peste porcine classique ou de la brucellose porcine. Il y a peut-être d'autres maladies de la faune sauvage que voilà. On peut évoquer aussi ici.
Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler la manière dont on surveille ces maladies dans la faune sauvage, parce que c'est important. L'Office national de la chasse, avec les fédérations de chasseurs françaises, ont pris l'initiative dans les années 80 de créer un réseau de surveillance que l'on a déjà cité tout à l'heure, qui est le réseau SAGIR, qui est un réseau généraliste qui fonctionne sur tout le territoire français et qui a pour l'objectif de collecter des cadavres d'animaux sauvages morts naturellement dans la nature pour essayer de diagnostiquer les causes de mortalité de ces animaux pour que justement les chasseurs sachent de quoi sont morts les animaux sauvages qu'ils chassent. Sachant que ce réseau ne se limite pas uniquement au gibier chassable, mais il s'intéresse également aux espèces protégées et il s'intéresse aux maladies qui peuvent atteindre les espèces protégées. Ça, c'est une chose. À côté de cela, on a un certain nombre de maladies qui sont peu spectaculaires. C'est-à-dire qu'elles ne provoquent pas de graves symptômes chez les animaux sauvages, elles ne provoquent que très peu de mortalité. Et du coup, le réseau SAGIR, qui lui fonctionne en collectant des animaux morts dans la nature, peut passer à côté de ces maladies. On est obligé à ce moment-là de mettre en place des plans de surveillance que l'on appelle de la surveillance active, où l'on va rechercher les maladies qui nous intéressent dans des populations sauvages qui sont en apparente bonne santé, mais qui peuvent être porteuses de ces maladies. Et le meilleur moyen, c'est de faire des tests, des analyses sur des animaux qui sont tués à la chasse ou qui sont capturés, que l'on capture pour des programmes d'études sur les animaux sauvages qui sont menés par les autres CNERA, donc biologistes de l'Office, hein, qui font des études sur les oiseaux sauvages ou sur les chevreuils, les cerfs ou les sangliers. Et donc, ces méthodes de surveillance sont très complémentaires et elles nous permettent d'avoir une bonne vision de l'état sanitaire de la faune en France, même si tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut difficilement répondre à la question « Est-ce qu'elle est en bonne santé ? Est-ce qu'elle est en mauvaise santé ?» On a en tout cas une bonne vision de ce qui se passe chez les animaux sauvages. Et donc, on a un certain nombre de maladies qui sont inféodées à la faune sauvage, des maladies parasitaires, bactériennes, vous avez des virus du lièvre, par exemple, maladie hémorragique du lièvre, qui est la maladie qui provoque le plus de mortalité chez le lièvre en France, mais qui est une maladie qui n'est pas transmissible à d'autres espèces. Et puis vous avez des maladies qui, elles, peuvent circuler dans la faune sauvage et, comme on l'a déjà dit précédemment, peuvent être transmises à des animaux d'élevage et éventuellement à l'homme pour ce qui est des zoonoses. Et là, vous en avez un certain nombre que l'on peut classer suivant que la faune sauvage est véritablement le réservoir de ces maladies ou que la faune sauvage a été victime de contamination d'origine domestique, c'est-à-dire ce sont par exemple les vaches ou les volailles ou les cochons qui ont contaminé les animaux sauvages et qui ensuite, cette maladie pourra soit se développer, soit ne pas se développer chez les animaux sauvages, mais si elle se développe, à ce moment-là, la faune sauvage devient elle aussi réservoir de maladies des animaux domestiques. Et donc, on ne considère pas les maladies de la même façon suivant que la faune sauvage est réservoir ou victime de contamination. Vous avez évoqué la brucellose du sanglier. La brucellose du sanglier, c'est une maladie qui est tout à fait différente de la brucellose des ruminants, qui est mieux connue en Europe, c'est-à-dire la brucellose des vaches, des moutons, des chèvres, contre laquelle l'administration française et le ministère de l'Agriculture ont lutté pendant une quarantaine d'années pour l'éradiquer des troupeaux bovins, ovins et caprins. La brucellose du sanglier, c'est une brucellose qui est présente uniquement chez les sangliers, chez les porcs et chez les lièvres. Mais le réservoir, là, est vraiment la faune sauvage. C'est-à-dire que ce sont les sangliers et secondairement les lièvres qui sont porteurs de ce germe qui s'appelle Brucella suisse biovar 2. Et malheureusement, ces sangliers ont l'occasion, à certains moments et dans certains départements, d'être en contact avec des porcs qui sont élevés en plein air, parce qu'ils s'introduisent, ils font effraction dans des élevages en plein air, en passant à travers les clôtures, en général pour aller saillir des truies, d'ailleurs. Et à ce moment-là, ils transmettent la maladie. En plus, c'est une maladie qui se transmet par voie vénérienne. Donc, quand ils saillissent les truies, ça tombe bien pour la transmission de cette maladie. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment une maladie qui est présente à long terme, de manière très généralisée sur le territoire français, dans la population de sangliers, et qui peut accidentellement être transmise à des porcs domestiques. Voilà, donc là, on a vraiment un problème. Dans le cas de la tuberculose, que l'on a déjà développé tout à l'heure, c'est différent. La faune sauvage n'a jamais été le réservoir de la tuberculose bovine. Le réservoir de la tuberculose bovine, ce sont les bovins, et son nom l'indique, c'est la tuberculose bovine. Et malheureusement, dans certains endroits du monde, et maintenant, dans certains endroits de France, les bovins qui étaient infectés ont manifestement contaminé des animaux sauvages. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est de savoir si cette faune sauvage va être capable de devenir un réservoir de cette maladie. Et on va tout faire pour qu'elle ne le devienne pas. Parce que quand la faune sauvage devient réservoir d'une maladie, on n'a quasiment plus aucun moyen de lutter contre et de l'éradiquer parce qu'on ne peut pas maîtriser la faune sauvage comme on maîtrise des animaux domestiques que l'on peut abattre totalement dans un cheptel.
Alors, si je résume votre propos, la question de savoir si on a ou non en instantané une image de la santé générale de la faune sauvage en France, impossible d'y répondre. En revanche, après 25 ans de mise en place de ce réseau SAGIR, ce qu'on peut voir de manière beaucoup plus nette, c'est avoir une connaissance des maladies qui sont présentes, elles, dans la faune sauvage. Donc l'ONCFS est l'animateur de ce réseau SAGIR, c'est un véritable multi-partenariat, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, notamment avec le monde des chasseurs. On voit bien que les vétérinaires sont la clé de voûte de ce dispositif en fait.
Oui, tout à fait. Alors il s'avère qu'il y a une quinzaine d'années, les vétérinaires spécialisés ou s'occupant de faune sauvage pouvaient se compter sur les doigts d'une main, voire les doigts d'une demi-main. Et qu'aujourd'hui, avec cette problématique qui a pris de l'importance en France, dans la santé animale justement, nous sommes maintenant d'assez nombreux vétérinaires, plusieurs dizaines sans doute si on en faisait un comptage exhaustif,
tous au sein de l'ONCFS.
Pas seulement au sein de l'ONCFS, mais à s'occuper justement de la surveillance, des études et de la recherche sur les maladies de la faune sauvage. Alors, il se trouve que l'ONCFS est très central dans ce système, hein, dans tout ce système de surveillance des maladies de la faune, puisque il a été à l'origine, avec les fédérations de chasseurs et avec l'AFSA Nancy, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'époque, de Nancy, de la création du réseau SAGIR. Mais depuis une quinzaine d'années, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, les activités du réseau SAGIR se sont vraiment développées, se sont ouvertes à d'autres systèmes de surveillance qui permettent de mieux connaître la présence de maladies contagieuses sur des populations qui n'ont pas forcément beaucoup de mortalité qui sont provoquées par ces maladies contagieuses. Et en fait, au sein de l'unité sanitaire de la faune, on est déjà plusieurs vétérinaires. Et on travaille vraiment très étroitement en collaboration avec les laboratoires de référence de l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, qui s'appelait avant l'AFSA, et qui contient les principaux laboratoires de référence sur les différentes maladies que l'on étudie chez l'animal, aussi bien l'animal sauvage, l'animal domestique que l'animal sauvage. On est en relation étroite, bien sûr, avec le ministère de la Culture. On est en relation étroite avec tous les laboratoires vétérinaires départementaux qui sont présents sur tout le territoire français et qui accueillent les prélèvements venant du réseau SAGIR ou venant des programmes faits avec les chasseurs. Nous sommes en relation étroite avec la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs, puisque ce sont eux qui effectuent la plupart des prélèvements de collecte de cadavres ou de prélèvements faits sur des animaux tués à la chasse. Nous sommes en relation avec l'INRA, avec les écoles vétérinaires, et donc on est vraiment dans un système multipartenarial qui travaille en ce moment, tous dans le même sens, d'une meilleure connaissance des maladies de la faune sauvage en France.
Docteur Jean Arche, je vous remercie.
Merci.